Et puis, ben, comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas réunis entre dissidents, ben, on peut se poser aussi la question, est-ce que la dissidence est morte ou endormie ou dispersée parce que ben, finalement, elle est en pause à cause notamment de l'absence de passe, l'absence de grandes pandémies ou de grands périls proches, parce que l'Ukraine semble, même si c'est un péril mondial, semble un péril lointain. Donc, est-ce que par manque de risques ou de dangers immédiats, la résistance s'est endormie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a plusieurs. On reste là. On reste attentif à ce qui se passe au signe des temps. Et puis, bah, du coup, cette soirée-là, ça va nous permettre de parler eh bien, de sujets qui nous inquiètent, mais qui sont un peu en patchwork des signes en apparence dispersés, mais d'une même menace. Alors, il y a le péril climatique, il y a le péril énergétique, il y a le péril. Peut-être que bientôt il va y avoir le péril viral à nouveau. Bon, c'est. Pour l'instant, on est dans une phase de creux ou de fausse accalmie. De fausse accalmie, mais bon, on reste vigilant parce qu'on sait que. Bah déjà, le traumatisme qu'a été la pandémie et puis surtout les moyens pour l'enrayer. La pandémie du Covid montre qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver de bien corsées. Donc, faut pas baisser la garde. Alors, moi, j'avais envie de vous parler, pour commencer, d'un sujet qui me touche personnellement. C'est la franc-maçonnerie et l'Église catholique, que j'ai intitulé Comment les évêques et les responsables d'églises catholiques rentrent en franc-maçonnerie sans même s'en rendre compte et qui se font avoir alors même que certains affichent leur intention de lutter contre la franc-maçonnerie ou prônent l'incompatibilité foncière entre franc-maçonnerie et catholicisme. Alors qu'en réalité, bah, ils ont un discours hyper franc-mac et que, pris dans leurs intentions de dénoncer la franc-maçonnerie, ils ne se voient même pas y rentrer. Alors, déjà, bon, je vous en avais parlé dans le groupe WhatsApp, mais moi je suis passionné par la franc-maçonnerie parce que je trouve que le fossé entre franchise ou sincérité et vérité, il est assez fascinant. On peut être franc sans être vrai. On peut vouloir le bien sans le faire. On peut être dans l'intention de bien ou dans l'intention de dénoncer le mal, tout en reproduisant le mal ou tout en agissant mal. Et donc, il faut faire très attention à ne pas rentrer soi-même dans une illusion que nous donnent nos intentions, mais bien vivre ce que l'on dit. Ne pas faire ce que l'on dénonce. Et c'est pas donné à tout le monde. Des fois, on pense que les intentions suffisent, les bonnes comme les mauvaises. Et on sait bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout comme le bien, d'ailleurs, qui lui est pavé de bonnes intentions, mais qu'il met en pratique. C'est la seule différence entre les deux. Mais voilà, donc il ne faut pas diaboliser les bonnes intentions. Mais alors, donc la franc-maçonnerie, bah, dernièrement, je vous l'ai raconté. Parce que j'allais souvent visiter le Grand Orient, qui se trouve donc pas loin du métro Cadet, qui est l'obédience maçonnique la plus importante en France. Mais il y en a une deuxième, la deuxième plus importante en termes numériques, qui s'appelle la Grande Loge de France, la GLDF, qui est pas très loin de la place Clichy. Et j'y étais allé qu'une seule fois, et là j'y suis retourné pour les journées du patrimoine. Donc à chaque fois qu'il y a des journées du patrimoine, ou nuit blanche, ou nuit des musées, moi, bah, tiens, je vais aller voir la franc-maçonnerie, voir ce qui s'y passe. C'est un peu des tenues ouvertes, hein, une sorte de portes ouvertes. Et j'aime bien y aller, parce qu'à chaque fois, à chaque fois que j'y vais, il y a un scoop, il y a un truc énorme, un mensonge monumental que j'entends et qui me fait bien rigoler. du genre non mais nous en franc-maçonnerie on n'est pas du tout impliqué en politique, et puis après tu te balades dans les couloirs et puis tu vois que tel ministre est invité en tenue privée fermée, voilà. Donc il y a ce double discours où les gros bobards qui nous racontent, c'est quand même toujours assez énorme, mais comme ils sont dans la franchise, les francs-maçons, et ils ne s'entendent pas toujours parler, ils ne s'écoutent pas. Et du coup, c'est là qu'ils sortent des mensonges en y croyant à donf, quoi. Et donc là, je suis allé aux dernières journées du patrimoine, pour la deuxième fois, à la GLDF. Et en fait, ça a été incroyable parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est très très bon parce que la visite, donc on était une vingtaine de visiteurs et puis on ne pouvait pas prendre de photos. On a eu deux guides, un premier guide qui nous a montré le hall d'entrée, et en fait la Grande Loge de France s'est installée dans un ancien monastère franciscain. Donc il y a plein de vitraux par exemple dans l'église qui ont été conservés, même si maintenant c'est devenu un temple maçonnique. T'as même sur le fronton Saint Antoine de Padoue, enfin c'est incroyable.
C'est une église,
ben ouais, c'était une abbaye franciscaine avant qu'il soit viré. et puis en fait, donc la visite s'est passée, j'ai posé trois questions, mais sans être celui qui monopolisait la parole, j'ai dispersé les prises de parole pour que je ne sois pas repérable. Et en fait, mes questions ont réveillé l'intérêt du guide. On ne sait jamais qui nous guide, hein, parce qu'ils sont, ils portent jamais leur prénom, ils ont un badge où c'est conférencier ou guide. Mais en fait, la franc-maçonnerie, c'est vraiment une machine à broyer les identités, quoi. Et même eux-mêmes ne disent pas qu'ils sont en franc-maçonnerie, et ils ont des noms complètement soit passe-partout, soit qu'ils ne disent pas. Et en fait, il s'est trouvé que le guide à qui j'ai tapé dans l'œil, en fait, c'était le grand maître vénérable, donc le numéro 1 de l'obédience. Pardon ? 33e degré. Et qui s'est fait passer pour un guide lambda et qui m'a pris à la fin à part en me proposant de me parrainer. Parce que bah voilà, il trouvait que ce que je disais était intéressant. Et alors certains amis me disent ouais, ben bah alors comment t'as géré ça, quoi, parce que tu peux tout à fait être flatté par ça, parce que j'ai tapé dans l'œil du mais je pourrais tout à fait me dire hey, moi j'ai séduit, j'ai entre guillemets j'ai eu le plus gros poisson, et il faut que je me méfie de ça. Et je le dis, je vous le dis, ça fait longtemps que je vous le dis, mais je le répète, j'ai tout pour être franc-mac. J'ai vraiment la totale. J'ai écrit trois dictionnaires symboliques, et la franc-maçonnerie est basée sur le symbolisme. Pour être franc-maçon, actuellement, si t'es homo, t'as de grandes chances de l'être. Et si en plus t'es soit très intelligent, soit une personne d'influence, bah là, t'as de beaucoup, beaucoup de chance pour et être repéré et vouloir y rentrer. Donc, lui m'a pas dit son identité. Il a juste pris sur le promontoire à la fin. On était la visite se terminait dans la crypte. Il a pris un bouquin sur l'étalage et puis il me l'a offert. Et puis après, il m'a dit si vous voulez être parrainé, j'ai écrit. C'est moi qui ai écrit la préface de ce livre. Donc, il ne m'a pas dit qui il était. Et c'est en rentrant chez moi. J'aurais dû tilter parce que la troisième question était sur les degrés. Parce que lui parlait des degrés. Moi, je lui ai dit, vous êtes à quel degré ? Il m'a dit le 33e. Donc, moi, j'aurais dû tilter à ce moment-là que c'était le grand maître vénérable. Je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, en rentrant chez moi, j'ai vu Marc-Henri. Et après, j'ai regardé sur YouTube et c'est lui. Donc, ce qui est assez génial, je trouve, pour résumer, c'est de voir la gémellité, enfin la similitude entre les francs-maçons et les catholiques pratiquants. Puisque moi, je lui ai dit que j'étais catholique pratiquant, j'ai joué carte sur table, et il m'a dit que ce n'était pas du tout un problème. Et plus que ça, il m'a dit qu'il était allé l'été dernier, donc cet été, en retraite spirituelle à l'abbaye de Cîteaux. Donc, comment vous dire, être retraitant. Parce que déjà, en tant que catholique, on ne va pas tous faire une retraite spirituelle. Parce que c'est assez éthique, faut prendre du temps, tu fais la vaisselle avec les autres, il y a un petit côté un peu humiliant. Un peu désertique aussi, parce que là c'était une retraite en silence. T'as pas envie de prier pendant une semaine, même en tant que catho régulier, t'as pas forcément l'appétence pour ça. Et ben, imaginez qu'il y ait quelqu'un parmi les retraitants qui ne croit pas en Dieu, parce que lui il l'a dit, hein, il croit pas que Jésus est Dieu, il croit pas en Dieu. Donc voir des types comme ça faire une retraite spirituelle et s'imposer cette ascèse, moi ça m'a troué le cul. Hein.
Donc, avec des vêpres, des,
mais ouais,
des célébrations.
Mais ouais. Et accepter d'être anonyme, qui fait la vaisselle et la plonge avec les autres, alors que t'es quand même numéro un d'une obédience maçonnique parisienne. Moi j'ai halluciné et je me dis, ben là, ça s'appelle un infiltré.
C'était pas un défi aussi pour lui.
Alors, déjà, je pense qu'il y a, chez les francs-maçons, qu'on peut tous être, ils savent où se trouve l'énergie, ou la force divine. Ils en ont l'intuition, même s'ils n'y croient pas nécessairement ou ouvertement. Mais ils en ont l'intuition. Donc, ils vont dans les endroits où ils savent qu'il y a Dieu. Et donc, bah, ils sont attirés par ça. Parce que pour qu'un Marc-Henri, qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas en la divinité de Jésus, aïe, une semaine de retraite, c'est pas juste par pur altruisme ou pour trouver un lieu de paix.
Ou peut-être pour débaucher des catholiques ou rentrer dans le système pour mieux l'influencer à son agenda.
Une retraite en silence, tu n'influences personne. Hein.
pas dans le silence, mais l'après-silence, tu t'identifies, il y a des gens avec qui tu peux échanger.
Tu peux faire des signes caractéristiques qui peuvent être
aussi, aussi, tu vois, ils s'infiltrent un peu partout, c'est le but de la formation.
Ben, bien sûr. Sûr.
Oui, mais c'est un but qui a un objectif, c'est, je pense, de s'approcher, voire de mettre la main sur la divinité. Plus encore que de faire des adeptes. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la fascination, jalouse, ou un rapport même idolâtre, comme a pu l'avoir d'ailleurs Judas avec Jésus. Donc voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire. Et après, alors je suis allé à l'officialité la semaine dernière, et dans la salle d'attente, c'était pour une amie qui est en procès de nullité de mariage. Donc c'est dans l'église. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs comment c'est géré. Ça m'a rassuré sur l'état de l'église, parce que les auditions de témoins dans le cadre de nullité de mariage, c'est du sérieux, quoi. Je suis tombé sur un prêtre très sérieux, une notaire aussi très, très sérieuse, donc ça m'a rassuré. Bref, et dans la salle d'attente, qui faisait très salle de médecin, il y avait la revue du diocèse de Paris, donc qui s'appelle Paris Notre-Dame, avec Monseigneur Laurent Ulrich, qui présentait sa lettre pastorale pour l'Avent. Et puis, bah, vous me connaissez, moi, je suis un investigateur, et puis on va dire, j'ai mon détect franc-mac que je m'applique d'abord à moi-même, je tiens à le dire, mais que j'aime bien allumer, surtout par rapport à l'Église. Et alors, bah, quand j'ai vu l'interview, etc., j'ai commencé à souligner tout le vocabulaire, tout le jargon franc-mac. Donc à fond sur la fraternité, donc l'humanisme intégral, et puis aussi il emploie beaucoup la métaphore du tissu, hein. Donc faut qu'on tisse des liens, et puis faut retisser le lien entre cathos, donc et je pense qu'il ne s'entend même pas parler, voilà, et que par ailleurs il est anti-franc-maçonnerie, hein, donc et moi c'est ça qui me fait bien marrer, c'est que il faut pas être dans l'anti, c'est comme un miroir. Le seul moyen d'arriver à s'extraire du mal qu'on dénonce, c'est de s'y intégrer et de partir du principe que potentiellement, de par notre condition humaine pécheresse, on est le premier franc-mac, on est le premier homophobe, on est le premier extrémiste, on est le premier terroriste, on est le premier criminel, on est le premier pécheur. Et à partir de là, moi, quand j'entends qu'une personne qui dénonce quelque chose, s'inclut dans ce qu'elle dénonce, là je me dis, il y a œuvre et d'humilité et aussi d'amour, parce qu'elle s'associe aux personnes avec qui elle n'est pas d'accord. Parce que quand, moi je le vois, j'ai écrit des livres, quand j'écris pour me justifier que je ne suis pas telle ou telle chose, c'est là que je le prouve inconsciemment, que je le suis, et puis... le mal n'est pas extérieur, en fait, ou le mal, c'est pas les autres. Par fraternité, on communie tous au péché. Et puis, bah, quand on aime même les pécheurs, bah, on communie aussi d'une certaine manière, même si on n'adhère pas et si on ne pratique pas le mal qu'ils ont fait, on communie au péché qu'ils ont posé. Dis-moi.
En fait, tu dis qu'en fait, il a un discours un peu franc-mac, c'est-à-dire quand il parle de la fraternité ou quand il parle de tisser des liens. Mais en fait, cette notion de fraternité, de tisser des liens, elle n'est pas là avant la franc-maçonnerie. C'est pas plutôt la franc-maçonnerie qui s'est inspirée de ça, approprié ça, mais pour commettre les choses en son lien.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En fait, de toute façon, c'est pas en soi le vocabulaire même de la lumière ou même des valeurs défendues par la franc-maçonnerie. Le problème, c'est comment elles sont défendues ou à qui elles sont rattachées. Et en fait, elles sont pas rattachées à Jésus. Donc c'est ça le gros problème. Mais en soi, moi, j'ai rien contre la fraternité et j'ai rien contre l'intelligence. J'ai rien contre l'humanisme, à partir du moment en fait où ben, on lui reconnaît sa source, on lui reconnaît son créateur aussi. Voilà, mais alors, donc je voulais terminer mon petit topo par une description du Père Elijah, le roman que j'ai lu, donc le Père Elijah, une apocalypse de Michael O'Brien, qui a été écrit en 1995. Et de toute la série qui en découle, c'est un roman d'anticipation qui est génial parce qu'il parle d'un religieux qui va rencontrer l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'opposé du Christ qui est annoncé dans les Écritures, soit par Daniel dans l'Ancien Testament, soit par Élie, soit par Saint Jean dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Donc c'est quelqu'un qui va régner 3 ans et demi avant l'arrivée du Christ et qui va être le diable incarné et qui va réussir en fait à se faire passer pour le Messie aux yeux des Juifs, pour le retour de Jésus aux yeux des catholiques et des musulmans, ou pour Shiva ou Bouddha ou Krishna pour ceux qui ne croient pas, enfin pour un, voilà, enfin voilà. Voilà, hébraïque, ouais. Et puis, et donc c'est un bouquin passionnant que j'ai offert à Julian parce que, voilà, désolé, je t'ai dit ce que tu étais, mais parce que c'est vraiment excellent. Je vous conseille d'ailleurs de lire en ce moment, parce qu'on a... On est tous des antéchrists, hein. C'est Saint-Pierre qui l'écrit dans la Bible, on est tous pécheurs, on est tous des antéchrists, donc il n'y a pas à dire l'antéchrist c'est l'autre, non, c'est d'abord moi l'antéchrist en potence, et puis après de lire tous les romans d'anticipation, qui sont en général du coup prudents parce qu'ils utilisent le moyen romanesque pour annoncer les fins dernières de manière beaucoup moins autoritaire et orgueilleuse que des prophéties qui se révèlent vraies. Donc le roman d'anticipation, je trouve que c'est un bon moyen pour... ça dépend du roman, mais bien souvent, ça peut être une prudence d'humilité qui est très juste. En tout cas, c'est le cas pour Michael O'Brien, qui est canadien. C'est le cas aussi pour Benson, qui a écrit Le Maître de la Terre en 1905, qui est le livre de chevet de nos deux papes, hein, le pape émérite Benoît XVI et puis le pape actuel François.
Le cycle de fondation avec Isaac Asimov prédit beaucoup avec les maths, avec la science, en fait.
Voilà, et puis alors, donc il y a tout aussi, il y a l'Esprit Saint qui parle à des gens. Donc il y a Soloviev, que je vous conseille aussi, hein, le récit sur l'Antéchrist. Et j'avais envie de vous lire donc juste le passage du Père Elijah à Jérusalem et aussi le Soloviev qui montre comment la majorité des évêques, cardinaux vont se faire baiser parce que ils. Comment dire, l'Antéchrist, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui ne va pas rejeter en bloc les cathos. Il va employer les méthodes pacificatrices et de rassemblement, d'unité. Et d'ailleurs, dans le Père Elijah, le mouvement de l'Antéchrist s'appelle Unitas, donc en latin, unité. Et en soi, bah, qui peut être contre l'unité ? C'est tellement mignon. C'est tellement mignon, c'est tellement ça inclut tout le monde, voilà. Voilà, voilà. Et donc Soloviev de son côté montre en fait que l'Antéchrist arrive et s'installe à Jérusalem dans la réplique finalement du temple de Jérusalem, le temple de Salomon qui est le troisième temple de Jérusalem. D'ailleurs si on ne comprend pas que le conflit israélo-palestinien est aussi eschatologique, est aussi en lien avec un messianisme, on passe complètement à côté. Parce que là, la guéguerre entre juifs et musulmans, par exemple, qui se disputent l'esplanade des mosquées et le dôme du rocher, c'est parce que, à cet endroit-là, toutes les grandes religions monothéistes veulent soit installer le trône du Messie, soit le trône de Jésus à son retour en parousie. Donc, comment ?
C'est la version.
Oui, mais sauf qu'en fait, ils sont nombreux les croyants. Et que.
La version des non-croyants, c'est plutôt un point de vue ressources.
Et énergie. Énergie. Mais en tout cas, tout va se cristalliser, qu'on soit croyant ou pas croyant, en Terre Sainte. Le lieu où Dieu soit est déjà passé, soit est attendu. Et donc voilà, je voulais vous lire ces extraits-là. Moi, j'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir avec justement cette unité-là, qui est très séductrice. Parce que juste avant la crise sanitaire, j'ai fait partie d'un mouvement, mais de manière, enfin, juste... J'étais un invité spécial d'une revue et d'un mouvement qui s'appelle Unité Nationale, fondé par un maître électricien, comme par hasard, et puis un autre fondateur qui se trouve à La Réunion. Et eux, ils ont aimé ma singularité. Singularité, c'est un des noms de la marque de la bête. Singularité, ils ont aimé mon côté original, machin, et ils m'ont invité à participer 3 fois à leur revue. Et en fait, ça a explosé entre nous quand j'ai dit que l'unité, pour moi, c'était pas un combat et que c'était pas un combat juste. Ça dépend autour de qui on l'a fait. Et que, en fait, là, eux, leur mouvement Unité Nationale qui se dit apolitique, en fait, visent l'unité en elle-même. Ils sont vachement en lien, alors qu'ils ne sont rien, hein. Ils ne sont absolument rien. Ils sont en lien avec Jacques Attali, ils arrivent à avoir leur place dans des rassemblements où il y a Michel Obama, des pontes du gouvernement mondial, en fait. Parce que, en fait, leur mouvement, qui n'est rien, sert de patron, en revanche, à un mouvement qui, lui, va être la gouvernance mondiale. C'est pour ça qu'ils trouvent un écho et ils ont les meilleures places, alors qu'ils sont ils sont même pas une revue en soi. Et une des fondatrices m'a pété un cap quand j'ai dit que Unitas était le nom du mouvement de l'Antéchrist dans le Père Elijah, le roman Le Père Elijah. Et là, je me suis fait traiter de tous les noms parce que j'ai le droit, et c'est là où je trouve qu'ils sont très très forts et que l'Antéchrist est extrêmement fort. C'est que bon, l'argument de l'unité est imparable. Et puis l'argument aussi de l'accueil. T'as le droit de penser ce que tu veux. T'as le droit même d'avoir tué des gens, de voter Marine Le Pen ou Zemmour. T'as le droit de croire que Jésus est Dieu. Mais pour toi, si ça dépasse ta sphère individuelle, ta singularité, elle devient un énorme danger. Mais sinon, t'as le droit de croire ce que tu veux. T'as le droit d'être contre le mariage gay. Moi, j'étais contre le mariage gay. On m'a trouvé génial. T'as le droit d'exprimer ton avis. Et moi, dans Unité Nationale, j'ai pu exprimer mon avis. J'étais là, mais putain, mais ils sont vachement... Il m'invite moi, alors que moi, je suis quand même connu comme le loup blanc, détesté par tout le monde. Il m'accueille vachement bien. Et je pense que cette flatterie, elle va marcher pour les grands responsables religieux qui vont se dire, bon, certes, Jésus n'est pas défendu comme le Dieu pour tous, y compris pour ceux qui n'y croient pas. Mais en même temps, je suis accueilli tel que je suis, un peu comme chez McDo. Viens comme tu es, quoi. Et on me laisse pratiquer. Et on me laisse voter pour qui je veux. On me laisse croire ce que je veux. À partir du moment où je ne l'impose pas aux autres. Et où c'est pour moi-même. Et donc, c'est quelque chose de très séduisant. Et moi, j'avais la carte blanche, justement. J'avais carte blanche. Et en fait, oui, mais individualiste et flatteur. C'était assez dingue. Et en fait, quand j'ai commencé à défendre que Jésus n'était pas Dieu que pour moi, mais pour tous, y compris ceux qui ne croient pas en lui, là... Puis quand j'ai dit que en fait, l'unité en elle-même était un mouvement antichristique, donc diabolique, là, mais j'ai réveillé, mais je me suis pris les foudres. Elle voulait me traîner en procès.
Ah bon ?
Mais vraiment, c'est allé hyper loin. J'ai gardé toutes les captures parce qu'elle m'a inondé d'injures, juste parce que, en plus, j'avais pour le numéro d'unité nationale qui portait sur l'unité, justement, juste l'unité. Moi, j'avais fait un truc sur l'Europe et sur Joséphine Ange Gardien et l'Europe. Mais juste, j'avais parlé d'Unitas, quoi. J'avais touché à l'ADN, comme ils disent, pile à l'endroit où il fallait pas.
Et donc, il y a pas mal d'évêques qui vont se faire avoir.
Bah, beaucoup de papes, hein. Enfin, après, alors, le pape François, c'est spécial. C'est très spécial. Attends. Bah parce que moi je crois qu'il a été quand même choisi par l'Esprit Saint et que c'est juste notre Saint-Pierre. C'est juste notre Saint-Pierre, c'est-à-dire un gaffeur qui va trahir trois fois comme Saint-Pierre. Alors juste je vous lis le passage du Père Elijah. Alors le Père Elijah donc. Le Père Elijah à Jérusalem. Donc, vous écoutez ? Parmi les musulmans, le président, donc qui est l'antéchrist, était sérieusement considéré comme le grand prophète longtemps attendu, l'imam Mahdi. Parmi les juifs, les hommes instruits et les leaders spirituels, il était le messie enfin venu. De nombreux hindous croyaient qu'il était Krishna dans une nouvelle incarnation annoncée de leur dieu suprême, Vishnu. Certains bouddhistes citaient l'enseignement de leur maître selon lequel un autre après lui viendrait qui vaudrait 10 000 Bouddhas. Pour les adeptes du Nouvel Âge, post-chrétien, il était la venue du Christ cosmique. Pour les laïcs, il était le plus grand être humain dans l'histoire des espèces, catalyseur, auto-actualisé et facilitateur de l'évolution de l'homme. Donc tout le monde va voir a des raisons d'adhérer à l'antéchrist. Et alors, donc, il y a Soloviev qui explique, alors lui c'est marrant, comment s'y prend l'antéchrist. Il propose par exemple aux orthodoxes de créer, il propose aux protestants la création d'un institut d'études bibliques mondial voué à la recherche sur l'écriture sainte. Donc les protestants, ils sont trop contents. Il promet au pape son rétablissement à Rome, à la condition, je cite, qu'ils le reconnaissent tous comme leur unique défenseur et protecteur. Il propose aux orthodoxes la création à Constantinople d'un musée mondial de l'archéologie chrétienne, destiné à promouvoir la connaissance des icônes et de la sainte liturgie. Donc, vous voyez, en fait, toutes les confessions religieuses, elles peuvent se sentir reconnues par des cadeaux qui leur sont faits, qui ont l'air de cadeaux personnalisés, qui reconnaissent leurs pratiques, mais qui en même temps, finalement, les alignent les unes aux autres pour qu'il n'y en ait pas une qui dépasse. Donc c'est une forme de laïcisme, mais qui en même temps a l'air spirituel, quoi, hein, spiritualiste. Donc c'est quand même finement joué. Et moi, je vois déjà chez pas mal d'évêques cardinaux cette tendance, et on l'a vu pendant la crise du Covid, à déjà, pour ne pas faire de vagues, garder leur carrière, se faire les porte-parole des mesures sanitaires en les habillant de charité. C'est-à-dire que, par exemple, Monseigneur Repetit, avant de se faire éjecter, il disait qu'en fait, le fait de rester confiné chez soi, c'était une manière de penser au prochain, hein, et de vivre son carême, et ça c'est texto ce qui a été dit. Donc même les mesures les plus, on va dire, les plus mondaines, les plus sécuritaires, les plus hygiénistes, peuvent s'habiller selon le message qu'on veut y donner de Christ, alors qu'en réalité, c'est pas en restant enfermé chez soi et en se faisant picouser qu'on pense à notre prochain, hein, et qu'on sauve des vies, faut arrêter. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire que je suis attentif à cet argument de l'unité et de la fraternité qui est très utilisé dans l'Église actuellement, parce qu'il a l'air christique, il a l'air alors qu'en fait nous on ne défend, moi personnellement je pense qu'on ne défend qu'une unité, c'est autour du Christ.
Est-ce que moi dans les exemples pour les livres que tu as lu, on en lit pour toutes les autres religions, on n'a rien lu concernant les catholiques?
C'est vrai, merci. Alors là, il promet au pape son rétablissement à Rome.
En tant que quoi?
Ben.
Est-ce qu'ils vont prendre pour... Il n'y a pas dans le reste du bouquin, s'ils vont prendre pour Jésus, est-ce qu'ils vont le.
Ce sera qui? Ça. Le pape? Non, l'antéchrist.
Dans le livre, est-ce qu'il y a des indications sur qui il sera pour les catholiques?
Merci Gédéon. Alors. En fait, dans Soloviev, il se fait passer pour le Messie. Mais dans les livres de Michael O'Brien, c'est plutôt un homme de paix. Il ne se fait pas directement passer pour le Christ. Mais en revanche, on le sait par la Bible et par Saint Matthieu, que quand Jésus en fait, parle des fins dernières et qu'il dit « Si on vous dit que je suis dans le désert », Ah, salut Noé. Si on vous dit que je suis dans le désert ou que je suis à tel endroit ou dans la ville, n'y allez pas. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui va se faire passer pour le Christ. Voilà, mais ça, c'est par Jésus qui dit, c'est pas parce qu'on vous parle de moi que ce sera moi. Et après, comme l'antéchrist va...
C'est aussi qu'il va se présenter à eux.
Ben, il ne va pas forcément se présenter comme Jésus. Il va se présenter comme un artisan de paix mondiale et d'unité. Et il va faire des grands signes. Notamment, dans l'Apocalypse, il est dit qu'il va faire descendre le feu sur terre. Donc, soit son faux pape, soit un magicien, en tout cas, ils vont trouver le moyen... soit de faire descendre les éclairs, quelque chose. Ils vont faire des gestes, ils vont faire des faits, des œuvres qui vont paraître extraordinaires. Et moi, je suis très attentif à ce qui se passe dans La France a un incroyable talent et toute la franchise, c'est le cas de le dire, de La France a un incroyable talent. Parce que là, il y a tout ce qui est art visuel, hologramme, grands mages qui débarquent, ils sont vraiment traités comme pas seulement des magiciens, des grands mages, des grands maîtres de sagesse, qui font des choses extraordinaires. Ça commence à vraiment arriver.
Mais l'Antéchrist, on peut penser qu'il lui, il aura des vrais, ce ne sera pas des... Comme les personnes qui ont du talent, ce sera des vrais pouvoirs.
Oui, sur les...
Ils ressembleront à ceux des prophètes.
C'est ça. Donc il y aura en tout cas la descente du feu sur Terre qu'il donnera l'impression d'avoir. Et ça, tu le retrouves et dans l'Apocalypse. Et puis si tu vas visiter les tapisseries de l'Apocalypse à Angers, tu vois même que l'Antéchrist fait descendre le feu sur Terre. Voilà. Donc, je voulais vous parler de comment même les évêques, les cardinaux anti-franc-maçonnerie qui dénoncent la franc-maçonnerie ont un discours franc-mac parce qu'ils sont... Ils sont aveuglés par leurs intentions anti-franc-maçonnes. Ils s'entendent plus parler. Donc il faut, en fait, je pense, le meilleur moyen d'échapper à ce mimétisme de ce que l'on dénonce, c'est de s'inclure dans ce que l'on dénonce. C'est de partir du principe, même si c'est pas vrai, qu'on est le premier pécheur. De faire finalement comme Jésus qui s'est identifié au péché sans être pécheur, dans la croix. Et ça, je cite saint Paul. Il dit Jésus, alors qu'il n'était pas pécheur, s'est identifié au péché. Il s'est identifié au criminel.
Il y a du préjugé un peu quand même qu'ils le sont, sans avoir vraiment de preuves qu'ils le sont.
De qui?
Des prêtres, des cardinaux.
Moi quand j'entends.
Je préjuge un petit peu.
Ben, je préjuge. Après, mon détect franc-mac, il est excellent. Il est excellent. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai pas assez de mes 10 doigts pour compter le nombre de personnes homosexuels que j'ai rencontrés, que j'ai démasqué en 5 minutes, alors qu'ils cachent le nom de leur obédience et qu'ils cachent leur appartenance même à leurs copains ou même à leur famille depuis des années. Et moi, en 5 minutes, j'ai pas assez de mes 10 doigts. Et puis, ce que je racontais à ceux qui n'étaient pas là au début, se faire draguer et courtiser par le grand maître vénérable de la deuxième loge plus importante de France, c'est une preuve. Mais ce que je veux dire, c'est que après, moi j'écoute. En fait, non, notre intelligence ne vient pas de nous. Tout ce que mène nos grandes qualités, nos grandes richesses, ce sont des dons. Ce sont des dons. D'accord. Mais justement, et la franc-maçonnerie part du principe en fait que l'homme se crée, s'améliore et s'immortalise lui-même par ses propres actes de solidarité, par sa propre quête de connaissances, par son processus d'amélioration. Et donc, ils sont dans l'homme auto-créé, qui se construit lui-même, qui va chercher en lui-même qui est une pyramide ou qui est un monument qui se construit lui-même, pierre philosophale. Ils entendent aussi remplacer le cœur de chair qu'on a par un cœur de pierre, mais beau, brillant, hein, poli. Et ça, tout ça, c'est, je le vois dans The Voice, je le vois dans les séries, je vois dans les dessins animés. Donc c'est pas quelque chose que je tire de mon chapeau comme ça. Ça fait longtemps que j'étudie la question.
Alors, je vais te poser une question. Mais...
Dis-moi.
Par ma réponse là à l'instant, tu disais que faut pas être dans le mimétisme et que on est soi-même. Il faut déjà s'inclure dans les francs-maçons. Je me disais, mais c'est pas pareil, les francs-maçons qui vénèrent Satan à un certain degré, et nous qui commettons des péchés, enfin, on va dire, par rapport à eux, qui sont minimes. Ouais. Ça n'a rien à voir, vénérer Satan au quotidien, vraiment, et nous, nos péchés du quotidien. Jusqu'à ce que tu parles de ça, ce dont tu viens de parler à l'instant, le développement personnel, je me façonne moi-même, je me rends mieux moi-même, je vais... voir telle et telle conférence, tel et tel machin, pour moi me transformer, pour moi m'élever. Et il y a quelque chose de cet orgueil-là dont tu parlais à l'instant.
Alors déjà,
on se façonne totalement soi-même, et c'est vrai que nos qualités ne viennent pas de nous. Nos qualités sont un don de Dieu.
Oui.
Donc voilà, c'est qu'il y avait ce parallèle-là.
Merci. Et je pense que de toute façon, pour avoir vu Marc-Henri, C'est le grand maître vénérable de la GLDF. J'ai pas senti que c'était un mec, même s'il est au 33e degré, qui fait des messes noires ou qui sacrifie des vierges dans le sous-sol de la crypte de la GLDF. Non mais alors peut-être qu'il y a ça, mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est banal, populaire dans la franc-maçonnerie. C'est pas le plus scabreux, même si je sais que ça existe, mais c'est pas en dévoilant la part d'ombre de Lucifer qu'on parle le mieux de lui et qu'on met le mieux en garde contre lui, parce que justement Lucifer il est brillant, il est en loge aussi électrique et puis qui brille de mille feux à la télé. Donc après, je crois aussi qu'il y en a certains, déjà, ils n'ont pas l'impression de vénérer Lucifer puisqu'ils ne l'appellent pas comme ça. Pour eux, c'est une énergie, c'est une entité, ils ne le voient même pas comme un ange, quoi. Donc c'est une énergie. Donc il faut aussi prendre les gens sans nier qu'il y en a qui le vénèrent en connaissance de cause et qui font des pactes avec lui, mais il y en a beaucoup, et notamment dans les premiers degrés de franc-maçonnerie, qui le suivent de manière tout à fait innocente, parce qu'en fait, ils sont illuminés par les découvertes qu'ils font, par l'importance qui leur est faite, la lumière qui les éclaire, qui les met en valeur. Donc moi j'aime beaucoup regarder en fait la télé, les émissions débiles et c'est comme ça d'ailleurs que je fais cracher le secret d'appartenance à la franc-maçonnerie. Même alors j'ai rencontré un grand maître vénérable, lui de Puteaux. Lui, je l'avais rencontré parce que certains francs-maçons sont persuadés qu'ils ont des idées que personne ne les comprend, qu'ils ont des idées hyper nouvelles qui vont révolutionner le monde, qui ne sont pas comprises par le monde, qui sont attaquées. Là, tout d'un coup, ça s'écroule et ils se sentent tellement cons qu'ils me lâchent. Ils me lâchent qu'ils sont en franc-maçonnerie parce qu'ils ont juste envie de savoir où est-ce que j'ai entendu de la franc-maçonnerie dans Demain nous appartient. Et je vais vous donner un exemple, mais il y a un épisode de Demain nous appartient donc qui est une des séries phares de TF1, où tu as le père d'Ingrid Chauvin qui fait son apparition. Il est homo, il fait son coming out, il débarque auprès de son ex-femme et de ses filles, et il propose un jeu de piste pour dévoiler son identité. Et puis il fait son coming out, et puis à un moment il dit « j'ai laissé 1717 enfants en Colombie ». Et il répète la phrase. Donc évidemment, ceux qui n'y connaissent rien à la franc-maçonnerie, la ménagère là, qui regarde Demain nous appartient, ça lui passe complètement à côté. Mais quand on sait que 1717, c'est l'année de fondation de la première franc-maçonnerie de rite écossais à Londres, franc-maçonnerie, on va dire, mondiale, hein, tout d'un coup, ch'ting ! Tu fais, mais en fait, non, mais ils se foutent de notre gueule.
Ça, c'est des incrustations subliminales pour... comme on le voit aussi dans les dessins animés, comme
tout
on
à
le
fait.
Voit dans beaucoup de...
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent...
Tu
sais pas qui l'a fait. Donc moi, je ne dis pas que c'est fait volontairement. Je dis juste, il y a eu une volonté derrière, même si les acteurs savent pas ce qu'ils disent, même si même les scénaristes...
C'est comme un code.
C'est comme un code. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ce soit aussi infusé maintenant... dans la culture populaire poubelle, c'est que non seulement la franc-maçonnerie est sortie largement des loges, mais qu'en plus, elle n'est pas du tout ni élitiste, ni rejetée par le monde. Elle est vraiment accueillie à bras ouverts par des gens qui ne savent pas qui ils accueillent. Et donc, y en a à la tête... qui s'en donnent à cœur joie, qui s'amusent bien avec nous, parce que ceux qui ne voient pas, ils ne voient pas, et puis les autres...
À la tête même de l'État.
À la tête même de l'État, et même au-dessus de nos dirigeants visibles. Parce que Macron, quand tu l'écoutes, c'est franchement un festival de jargon maçonnique, et en même temps, tu as envie de dire, lui, c'est l'idiot, c'est l'inté... Non, c'est le stratège utile. Mais c'est même pas lui qui dirige quoi que ce soit. Ouais, c'est une marionnette.
T'as déjà analysé le discours de Macron?
Ah oui, oui, oui.
Il essaie de satisfaire tout le monde, il a...
Ni de droite, ni de gauche.
Il a aucune...
Pas de fond, mais en revanche, c'est extrêmement bien ficelé. Et en fait, c'est, il a la brillance quand même luciférienne et maçonnique de l'intelligence, enfin de l'intelligence plutôt intellectuelle. Je voulais juste vous dire que il suffit pas d'être contre la franc-maçonnerie. Hein. Les intentions, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Et même, je pense que c'est mimétique. Même les intentions contre. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est comme je vous dis, humilité. Et s'inclure dans ce que l'on dénonce, c'est un présupposé et d'humilité et finalement de fraternité aussi avec ceux dont on dénonce la pratique. Et c'est un gage, je pense, de vérité, c'est-à-dire que tu arrives à voir des trucs que personne n'arrive à voir. S'inclure, ça veut dire je suis le premier franc-mac. Le franc-mac, c'est pas l'autre. Voilà, c'est pas l'autre. Je suis en potence, de par ma condition humaine, je suis le premier franc-mac. Et si je pense que c'est et si je me justifie de pas l'être, moi je suis tombé sur un franc-mac, je lui ai dit qui me disait mais moi je suis pas franc-mac, j'en ai rien à foutre de la franc-maçonnerie. Je fais ok, donne-moi le nom de ta loge, et il me l'a balancé. C'est-à-dire que moi je ne crois pas, même ceux qui sont contre la franc-maçonnerie, moi je commence à croire quelqu'un quand il fait l'acte d'humilité de se dire: de par mon humanité, de par ma condition humaine, de par mon statut de pêcheur, je peux tout à fait imiter ce que je n'énonce.
Mais ça, c'est évident.
Non, c'est pas évident.
Mais tous les croyants savent qu'ils sont pêcheurs et que...
Non. Parce que certains disent « je suis pêcheur », mais après, tu emploies un autre terme qui dit la même chose. « Je suis criminel, je suis pédophile, je suis... Ah ben là, il n'y a plus personne. Je suis homophobe, là, il n'y a plus personne. » Donc, ils acceptent le mot « pêcheur », mais ils n'acceptent pas ses synonymes. Donc il y a un problème. Donc l'acte d'humilité, il est de toute façon s'humilier et s'associer aux pécheurs et aux criminels, c'est jamais facile parce qu'on peut toujours être mal compris et être pris pour quelqu'un qui justifie le péché ou le crime. Donc c'est jamais facile. Et puis quand on est évêque ou cardinal et qu'on a une carrière et qu'on a une influence et on a du pouvoir, lâcher ça, c'est pas facile.
Mon raisonnement, de ta curiosité, pourquoi tu n'irais pas comme un infiltré de la même manière que lui, il est parti dans cette retraite de silence?
Tout à fait. Mais alors, en fait, la seule raison, je pense que c'est mon attachement à Jésus. C'est-à-dire que si je croyais pas que Jésus est Dieu pour tous, y compris pour ceux qui n'y croient pas, j'irais.
Mais oui, mais Jésus, il est partout.
Non, il n'est pas partout.
C'est une opposition de croyance, du coup, là.
J'ai une opposition de croyance.
Mais tu disais qu'il était dans le péché, qu'il s'était inclus dans tous les...
Alors, il s'est identifié. Il s'est identifié au péché en étant sur la croix comme un criminel.
Il n'est pas que...
Tu t'es astreint déjà une priorisation de croyance.
Et puis c'est une personne. C'est pas qu'une croyance. C'est une personne qui m'empêche de...
C'est ta croyance.
Non, parce que Dieu n'a pas besoin que je croie en lui pour exister. Donc c'est pas ma croyance. Oui, mais pour moi, c'est de sa personne. Voilà.
Mais regarde, quand tu regardes dans la Bible, il allait bien dans les lieux où les gens étaient considérés impurs, étaient considérés des escrocs.
Et donc, pour répondre à Malika, en reprenant l'image de Christophe, on n'est pas les gens qu'on rencontre. Et donc, ils peuvent nous contaminer ou nous influencer de manière quand même partielle. Et donc, rencontrer justement même des malades contagieux, des lépreux, Jésus l'a fait, ou des criminels sans devenir comme eux. Donc, c'est Jésus, mais on n'est pas ce qu'on rencontre et qu'on aime et qu'on essaye d'aimer.
Ça, on est d'accord, mais quoi qu'il arrive, chaque acte de vie... Ah oui, forcément, laisse une trace quoi qu'il arrive. Tu te fais influencer, ne serait-ce même par la respiration que tu fais à l'instant même, la pensée que tu penses pas encore, mais que tu vas penser, va t'influencer d'une qualité.
Bien sûr, et moi j'en suis ravi, c'est-à-dire que...
Perpétuelle auto-influence.
Je pense aussi que
les êtres vivants qui te composent t'influencent plus.
Mais tout à fait. Mais moi, je vois pas l'influence comme quelque chose de mauvais. Et puis, je crois même que c'est un point d'attention. Et même, je pense que les francs-maçons, certains, peuvent m'évangéliser. C'est-à-dire, mais vraiment, parce qu'il y en a. En fait, ils ont une recherche et de vérité très noble. et puis certains sont très sincères et certains ont une foi incroyable. Ils ont une foi incroyable parce que là, en France ou en République tchèque, qui sont les pays les plus sécularisés du monde, ou à être croyant en Dieu pour pouvoir rentrer en loge. Donc c'est très rare que justement cet athéisme, c'est particulièrement français, ou ce laïcisme est particulièrement français, mais sinon, ce sont des gens extrêmement spirituels. Donc c'est juste qu'ils se plantent de maître. Tout à fait, et je suis pas rentré en loge. C'est pour ça que je rentre pas en... Non mais t'as complètement raison. Et je pense que de cœur, je n'adhère pas à ce qu'il dit. Et ce qu'ils disent, je suis pas rentré en loge et je ne rentrerai pas en loge, même si je rêverais de me faire petite souris et finalement peut-être de jouer l'infiltré, parce qu'il y a un petit côté un peu
parce que justement tu dis toi-même, faut jamais dire jamais, parce que
j'ai jamais dit je pense que je rentrerai jamais en loge. En revanche, il faut que je fasse quand même attention à ne pas rentrer dans des loges non agréées, parce que je me suis déjà approché de loges, par exemple théâtre, de loges politiques, de lieux où il y avait de la lumière, quoi. Il y avait de la lumière et intellectuelle et médiatique et voilà.
Est-ce que c'est mauvais, forcément mauvais?
Il y a un danger, parce qu'il ne faut pas se planter de lumière. Il y a la lumière de Jésus qui est une lumière de cœur et qui éclairera le royaume de Dieu, même sans le soleil et même sans la lune, selon ma croyance. Et puis, il y a la lumière qui fascine les francs-maçons et qui sont au nombre de trois, or, électricité, soleil. Voilà, donc l'héliocentrisme pour le soleil, l'orisme. Et puis, l'électricité. Et donc, il ne faut pas se planter de lumière. C'est ça. Comme, voilà. Bon, j'ai fini.
Il y a tous ceux qui ne pensent pas comme les deux que tu viens de citer. Ceux qui ne pensent pas ce que tu viens de dire, ils ne sont pas dans ces catégories.
Oui, sauf qu'après, même si tu ne crois pas en Dieu, tu regarderas la promotion des trois formes de lumière défendues par la franc-maçonnerie.
Oui, mais je ne suis pas franc-maçon non plus.
Non, mais ce que je te dis, c'est que même si tu ne veux pas y croire, regarde au moins la société, tu verras que hors électricité soleil, ça le vend en poupe en ce moment partout. Il faut qu'on se mette à l'électrique, il faut qu'on vive d'or, et puis il faut que il faut qu'on soit.
Tu me connais, je pense, suffisamment pour que tu saches que je sais tout ça. Mais voilà, mais il y en a qui s'inscrivent pas du tout dans tout ça.
Lesquels? Qui ne s'inscrit pas dans ce que je viens de dire?
Ici peut-être personne, mais il y en a forcément. Tu peux pas partir de postulat.
Ah, mais je ne dis pas, mais là, mondialement.
Tu fais beaucoup de postulats, en fait.
Oui, enfin, c'est des remarques générales, après, voilà, qui acceptent les exceptions. Ouais. Et puis après, il y a la part de croyance, évidemment, que j'assume. Okay. Qui veut parler Merci à vous, merci.
J'avais une question, mais du coup, tu associes la franc-maçonnerie à une religion, alors? Une forme.
Oui, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie.
Sauf que, comme tu l'as dit, normalement une religion, c'est toi qui choisis, mais là, du coup, c'est eux qui vont vers les gens et qui choisissent. Les gens qui veulent inclure.
Ben, ils y vont. Certains y vont, parce que quand je vois les visiteurs qui vont au.
Si demain je me pointe là-bas, je dis je veux être franc-maçon, je veux être retoqué.
Pas forcément. Ah non. Parce qu'après, justement. Tu rentres par cooptation, donc par parrainage, entre guillemets, et puis après, il y a une enquête qui est faite sur toi, et puis après... Il y a tout un questionnaire, il y a des questions qui sont très... C'est très codifié. Mm-hmm. C'est très codifié, et puis très ritualisé aussi. T'as le passage sous le bandeau,
Ouais. C'est quoi ça?
Ben, en fait... On te bande les yeux. On te fait vivre par exemple des rituels. Les quatre éléments qui sont simulés. C'est très très codifié. Tu peux même dans une première entrée, Si tu es catholique de pratique, tu peux même jurer sur la Bible. Si tu es musulman, tu peux jurer sur le Coran. Et après, dans un deuxième temps, là, en revanche, on te demande d'apostasier.
De quoi ?
D'apostasier. Bah, c'est-à-dire qu'on te donne l'illusion que tu viens comme tu es, et puis que tu peux tout à fait être catho et franc-mac, ou musulman et franc-mac, il n'y a aucun problème. Et après, en revanche, on te demande quand même...
De renoncer.
Ouais.
D'accord. Et si tu ta religion, tu dois renoncer.
Ouais. Dans un deuxième temps. Ouais. Et là, tu as un livre, il faut que je retrouve le nom, je pourrais vous le donner plus tard, mais...
Ouais, ça me fait penser aussi chez les bouddhistes ou les courants un peu du New Age d'aspiration bouddhiste, on te dit souvent oui, mais c'est compatible avec ta religion actuelle, tu peux à la fois méditer et plus y affinité et garder la foi catholique, c'est pas incompatible, c'est pas pareil, c'est un mode de vie.
Il montre une apparente ouverture, et puis moi je peux vous dire que dès qu'il y a soit du fric, soit de l'image ou de l'influence, on vient vous chercher. Donc c'est pas toi qui va toquer. Ils aiment bien aller chercher. Et même des très très jeunes. J'ai une amie dont le fils a commencé football professionnel 18 ans. Et ben il s'est fait
alpaguer,
ouais, recruté. Et il a visité une loge, etc. Et je pense que certaines personnes ici, selon leur milieu professionnel, où il y a de l'oralité, où il y a de l'influence.
Pourquoi personne n'est venu me chercher ?
Mais que tu dis ?
Peut-être qu'on est venu me chercher, mais j'étais pas.
Mais
ça m'arrive souvent. Il y a un panneau grand, viens chez nous devant le chef. C'est non, c'est le nom du resto, non c'est une loge.
Bon, allez.
Toi, avant cette expérience, t'es déjà venu te chercher ou pas ?
Non, on était jamais. Mais moi, j'ai pas assez de fric, moi. Je suis pas assez de fric. Je paye pas assez. J'ai de l'influence. Puis après, Satan, s'il veut venir nous chercher, il peut toujours nous trouver, même dans une marginalité brillante. Hein. Donc moi, je reste prudent avec moi-même.
Ouais. Mais là où je travaille, mes directeurs, il n'y a pas de. Non,
je pense. Ah, tu rigoles ? La banque ?
Bah si.
Oh bah sans. À fond. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont pas l'acclamer sur les toits. Hein.
En théorie, tu n'es pas censé dire que c'est vraiment.
Tu sais, ah ouais.
Ben, c'est parce que tu dis souvent que tu les détestes qu'ils ne s'affichent pas.
Ou même, ils trouvent une forme d'orgueil à se cacher. Hein. C'est genre, je suis un génie invisible. C'est ça, hein. C'est vraiment ça.
Alors, il peut y avoir ça, ou la personne que j'ai en face de moi n'est pas prête à recevoir ce que je pourrais lui donner comme information. Donc c'est une autre forme d'orgueil. Oui. C'est une autre forme d'orgueil.
Après, maintenant, ils se cachent plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu un grand maître là qui a fait la une du monde et en se montrant comme le grand maître. Donc ils ont plus rien à.
Mais là, il se cache quand même. Macron, il se cache. Hein. Alors, il est catho, Mitterrand se cachait pas.
Mitterrand se cachait pas.
Il est parti à Lourdes, il a fait son cinéma pour faire croire qu'il était catho.
Je suis pas sûre de. François Hollande,
lui, il a visité le Grand Orient.
Ouais. Oui, François Hollande, il s'est affiché.
François Hollande. C'est à bannir maintenant, déjà.
En fait, Macron, il veut séduire tout. En fait, Macron, c'est un séducteur. Il veut séduire tout le monde, y compris donc les loges, y compris les formations, y compris l'ensemble des cultes. Il va dans tous les lieux de culte, tous les lieux de pouvoir. C'est un séducteur. Ouais. Une fois qu'il a séduit, il prend ce qu'il a à prendre et il jette. Et il recommence. Maintenant, c'est ça.
Jamais appartenir. C'est pour ça que lui, par stratégie, il ne va pas dire ni qu'il est de gauche, ni qu'il est socialiste. C'est l'outsider qui va manger à tous les râteliers. Et donc, il ne veut pas se montrer non plus comme franc-maçon, parce que c'est trop marqué identitairement.
Il a forcément une allégeance ou une...